Place Info.
Bonsoir à tous. Notre invité ce soir combat ce qu'il appelle l'hypercapitalisme. Bonsoir Thomas Piketty.
Bonsoir.
Avec un nouveau livre ce soir, vous, le professeur à l'école d'économie de Paris, vous, l'auteur de ce best-seller vendu à 2,5 millions d'exemplaires, vous revenez donc avec Capital et idéologie aux éditions du Seuil. Alors, je sais pas s'il aura ce livre autant de succès que le précédent. En tout cas, il provoque déjà beaucoup de débats. Sujet central, toujours les inégalités. Vous les décrivez en détail avec de nouveaux exemples, avec de nouvelles données aussi. Ça, c'est important. Et vous faites des propositions choc. Je parlais de débat. Le débat est là. Vous voulez instaurer, Thomas Piketty, un impôt progressif annuel, je le précise, c'est important, sur la propriété. Est-ce que l'impôt est la solution face aux inégalités encore et toujours ?
Alors, moi, j'essaye surtout de faire l'histoire des différents systèmes de justification des inégalités. J'essaye de regarder ce qui a marché, ce qui a moins bien marché au cours du 19e siècle, du 20e siècle. Et c'est vrai que si on veut aujourd'hui dépasser les excès du capitalisme dérégulé, et si on veut essayer de dépasser la logique purement capitaliste, la logique de propriété privée, je propose pour cela qu'on s'appuie sur des leçons d'expériences qui ont eu lieu au XXe siècle, permettant d'aller vers ce que j'appelle la propriété sociale et temporaire. Et c'est là que l'impôt peut jouer un rôle. Mais c'est d'abord l'objectif, c'est d'avoir la propriété sociale, c'est la circulation du pouvoir, notamment dans les entreprises. Ça a été fait notamment en Allemagne, en Suède, à travers le système de cogestion qui permet de partager.
Et donc avec un vrai droit de regard des salariés.
Un vrai droit de regard des salariés, ce qui a toujours fait peur aux actionnaires. Mais les pays qui l'ont fait, finalement, ça marche plutôt mieux.
Qu'est-ce qui vous dit que ça ne ferait pas peur aux actionnaires si on l'instaurait chez nous en France et qu'il n'irait pas ailleurs?
Ça, c'est sûr que ça ferait peur aux actionnaires. Je pense que maintenant, beaucoup d'entreprises réaliseraient que, comme en Allemagne, en Suède, ça a permis de beaucoup mieux impliquer les salariés dans la stratégie de développement de l'entreprise. Donc, c'est une piste sur laquelle il faut s'appuyer pour aller, au contraire, encore plus loin, pour faire circuler le pouvoir, pour impliquer. La propriété temporaire, et vous faisiez référence à ça avec l'impôt progressif sur la propriété, c'est le fait qu'on peut pas... La propriété privée, en soi, c'est très bien, tant que ça reste dans des proportions raisonnables. Mais lorsque vous avez des personnes qui possèdent 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards, 10 000 milliards et que ça se transmet au cours du temps et que ça se pérennise éternellement, là vous avez une concentration du pouvoir dont l'histoire montre qu'elle n'est pas utile pour la croissance économique. Je veux juste donner un exemple. Aux États-Unis, entre 1950 et 1990, le taux appliqué aux plus hauts revenus, et en particulier aux plus hauts revenus issus du patrimoine, c'était 75%. Reagan, dans les années 80, il a dit « ça va pas du tout, on va dynamiser la croissance en divisant ça par deux ». Et de fait, entre 1990 et 2019-2020, on est tombé à en moyenne 35% de taux appliqué aux plus hauts revenus. La question, aujourd'hui, là, on est 30 ans après Reagan, c'est de faire le point, est-ce que ça a marché ? Et le constat qu'on peut faire, c'est que le taux de croissance de l'économie américaine, en fait, il a été divisé par deux.
Fiscalité-là est bonne pour l'économie, c'est ça ?
En tout cas, au moment où ça a été utilisé, ça n'a pas empêché une croissance beaucoup plus rapide que ce qu'on a eu depuis.
Est-ce que le monde est le même, Thomas Piketty ? C'est ce que disent aussi ceux qui font des objections à votre proposition. Le monde, le capitalisme a changé et ça ne marcherait plus de la même manière aujourd'hui.
Oui, enfin, en attendant, ce qui n'a pas marché, c'est la révolution réaganienne. Parce que quand on a, entre 1990 et 2020, le taux de croissance du revenu national par habitant aux États-Unis, il est tombé à 1,1% seulement par an, alors qu'il était de 2,2% à l'époque de la grande progressivité fiscale entre 1950 et 1990. Donc, quelle est exactement la théorie de ceux qui veulent défendre encore aujourd'hui ce tournant réganien? C'est que la croissance, elle s'apprêtait à être divisée par 3 ou 4, et on a permis de limiter les dégâts en la divisant seulement par 2. Je crois que tous les raisonnements sont admissibles. Moi, je veux dire, dans ce livre, je mets sur la table des données, des raisonnements, dont je prétends pas du tout qu'ils sont les seuls. Je demande juste à chacun d'essayer d'y participer en s'appuyant sur ses expériences historiques, en apportant des éléments. Vous savez, c'est très difficile d'avoir un débat apaisé sur ces questions de fiscalité, sur ces questions d'inégalité, parce que les uns et les autres arrivent avec sont très énervés très vite dès qu'on parle de choses comme ça. Moi, j'essaye de mettre des expériences historiques sur la table pour ensuite que chacun puisse se faire son opinion.
En intitulant ce livre Capital et idéologie, vous avez fait un choix. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce que c'est cette réalité qu'on décrit ou c'est cette fameuse idéologie, Thomas Piketty ?
Je pense que les sociétés humaines et tous les êtres humains ne peuvent pas s'empêcher de faire appel à l'idéologie parce qu'ils ont besoin de donner du sens à la société dans laquelle ils vivent. Et c'est une bonne chose. Et je veux vraiment dire que jamais personne n'aura la vérité absolue sur le régime de propriété parfait, le régime fiscal idéal, le régime éducatif, le régime de frontières idéal. Donc il y aura toujours du désaccord idéologique. Et moi, mon but avec ce livre, c'est pas de dire je vais mettre tout le monde d'accord grâce à la vérité scientifique des faits historiques.
Mais je voudrais vous poser la question parce que beaucoup d'économistes se méfient de l'idéologie. Et ils le disent, oui. Y compris à ce micro.
Oui, mais en même temps, c'est souvent...
Il y a la réalité, il y a les chiffres.
Oui, mais non, ça, pour le coup, en matière de faits et de chiffres, je crois que j'ai pas de leçon à recevoir.
Il y a
169 graphiques dans ce tableau. Et ceux qui prétendent être post-idéologiques, souvent, ils en ont pas autant que ça. Et souvent, ce sont les plus idéologiques de tous. Et souvent aussi, les plus ignorants sur le plan historique. Parce que, sur tous ces débats, et notamment sur l'impôt progressif à 70 ou 80%, on entend tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, on entend des personnes qui nous disent « Ah, mais c'est l'Union soviétique ». Non, ce sont les États-Unis d'Amérique entre 1950 et 1990. Donc, si on pouvait juste essayer de regarder ces exemples, de même le partage des droits de vote dans l'entreprise, bon, c'est la cogestion germanique et nordique.
Vous parlez beaucoup des États-Unis, mais on peut encore parler davantage de la France. La question des inégalités est en ce moment au cœur du débat. Vous y avez contribué d'ailleurs. Rapidement, juste une citation. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, il y a quelques jours. Au risque de choquer, disait-il, les inégalités sont nécessaires pour récompenser les talents. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bon, ah ben à ce niveau de généralité, la question c'est quel niveau d'inégalité. C'est-à-dire que personne ne défend l'égalité absolue parce que simplement les uns et les autres ont des aspirations différentes. Donc le problème c'est jusqu'où ce type de rhétorique permet de justifier l'inégalité, quel que soit le nombre de zéros. Vous voyez, les milliardaires les plus importants avaient il y a 20 ans 5 ou 10 milliards. Aujourd'hui ils en ont 100. Est-ce que il faut attendre qu'ils en aient 1000, 10 000? Enfin, vous voyez, il y a un moment, il faut essayer de regarder est-ce que l'évolution à la hausse de la concentration de la propriété, est-ce que ça a permis ou pas d'avoir plus de prospérité. Par ailleurs, je vous signale quand même qu'il y a des défis comme le défi climatique qui vont demander de la sobriété énergétique, qui vont demander une plus grande répartition des richesses, des efforts. Et donc tous ceux qui disent non, on ne peut rien toucher aux inégalités actuelles parce que sinon tout va s'effondrer, je pense qu'ils oublient quand même qu'il y a des défis plus importants à régler que le nombre de zéros sur les fortunes des milliardaires. Donc il faut essayer de relativiser ces enjeux. Et de remettre en perspective historique, en perspective longue, s'appuyer sur ce qui a marché, mais ça demande de regarder un peu long dans l'histoire. C'est-à-dire, ces questions, ils n'ont pas commencé à se poser il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Il faut les remettre en perspective.
Débat lancé et relancé, Thomas Piketty, ce livre. Merci à vous. Capital et idéologie aux éditions du Seuil.